Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui A comme animaux, avec Camille Brunel, Jonathan Palumbo et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Des animaux, le cinéma en a filmé dès ses débuts et même dès son tout premier plan. Il y a un cheval et un chien parmi les ouvrières qui sortent des usines Lumière. Et puis même avant, les travaux proto-cinématographiques d'Étienne Jules Marais et d'Edouard de Muybridge visaient à comprendre en le décomposant le mouvement des animaux, pas pour rien, que le deuxième inventa un dispositif de visionnement au beau nom de zoopraxiscope, la machine à regarder l'attitude des animaux. Depuis, c'est toute une faune à poils et à plumes qui a envahi les écrans avec ses stars comme Cheetah, le faire-valoir comique de Tarzan, le chien militaire Rintintin ou la fidèle Lassie, Willy qu'il faut sauver et Okja, la truie transgénique de Bong Joon-ho qu'il faut sauver tout autant. Alors qu'avec la sixième extinction de masse, les animaux sont aujourd'hui en train de disparaître de la surface de la planète, ils sont de plus en plus nombreux à occuper celle des écrans. Ce que raconte toute histoire de l'animal au cinéma, c'est bien sûr celle du regard que portent sur lui ceux qui l'ont filmé. Or, ce regard et celui de la société humaine tout entière sur les bêtes, sauvages ou domestiquées, a singulièrement changé en ce début de 21e siècle, sous l'influence de la pensée antispéciste et des militants de la libération animale qui incitent à une autre vision des films comportant des animaux et génèrent également, en particulier outre-Atlantique, un nouveau cinéma animalier, pour ne pas dire résolument animaliste. Une autre histoire du cinéma est possible. Dis-moi comment tu filmes les animaux, je te dirai quel cinéaste tu es. C'est ce à quoi se sont attaqués deux essais parus concomitamment l'automne dernier et dont Plan Large reçoit aujourd'hui les auteurs. Le cinéma des animaux de Camille Brunel, recueil augmenté des articles qu'il consacre depuis quelques années à la question dans diverses publications, et Après la nuit animale de Jonathan Palumbo, consacré plus particulièrement à la représentation de la mort animale au cinéma. En fin d'émission, Fernando Ganzo nous parlera de ce drôle d'oiseau qu'est La Flore, film monstre qui sort en partie mercredi prochain et à qui le nouveau SoFilm consacre un dossier. Mais pour l'heure, place à une émission pour l'enregistrement de laquelle aucun animal n'a été maltraité. Ce n'est pas le cas de tous les films.
Ceci n'est pas une chapelle édifiée à la gloire de Saint Jean-Baptiste, patron des bouchers, ni à la mémoire de son agneau si doux. C'est la criée des abattoirs. Les moutons sont entraînés par le mignard, le traître, celui qui connaît le chemin et aura la vie sauve. Les autres suivent comme des hommes. Ils bêlent, comme chantent les otages, en sachant que ça ne sert à rien.
Grandpa used to sell his cattle. Hey, we got an uncle that works at one of those places outside of Fort Worth. Hey, you see those buildings there? That's where they kill them. They bash them in the head with a big sledgehammer.
Oh, that's awful.
It usually wouldn't kill them on the first lick. Squealing and freaking out and everything, and then have to come up and bash them two or three times. And then sometimes it wouldn't kill them. I mean, they'd skin them sometimes even before they were even dead.
Oh, that's horrible. Yeah. People shouldn't kill animals for food.
Pour être dépouillé, le mouton est boxé. Et un kyste peut se former au poignet de l'ouvrier après quelques années de ce dur travail.
Oh, well, they don't do it like that anymore. Now they got this big air gun that shoots a bolt into their skull and then retracts it. Boom!
Goes boom! Bagman, I like meat. Please change the subject. Boom. That's terrible. It's still going on.
Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, a dit Baudelaire. Sans colère, sans haine, et avec la simple bonne humeur des tueurs qui sifflent ou chantent en égorgeant. Parce qu'il faut bien manger chaque jour et faire manger les autres au prix d'un très pénible et souvent dangereux métier.
Et oui, le cinéma des animaux, ce ne sont pas seulement des peluches trop mignonnes, c'est aussi le mal qu'on leur fait, le mal qu'on se fait aussi. Vous venez d'entendre un montage par notre réalisatrice Somanina, deux films qui ont un sujet en commun, un monde noble et ignoble qui roule sa dernière vague de sang sur une nappe blanche où le gastronome ne doit plus songer au calvaire des victimes dans la chair desquelles il plante sa fourchette, écrivait Jean Cocteau quand il a découvert le sang des bêtes que Georges Franju avait tourné en 1940. Aux abattoirs de Vaugirard et de la Villette à Paris. L'autre film, dont la sensibilité extrême de Somanina l'a empêché de choisir les moments les plus atroces, quoique c'est Massacre à la tronçonneuse, le film mythique de Toby Hooper, longtemps interdit en France comme ailleurs, avec ce début où les cinq jeunes futures victimes de The Leatherface, l'homme au masque de cuir, et de sa famille de bouchers fous, ils passent avant ce massacre devant un ancien abattoir. Ils se remémorent comment on y tuait les bêtes, et là l'abattoir, c'est cette boîte noire, c'est ce lieu sans image entre les deux registres de représentation de l'animal qu'on peut avoir, le cheptel dans son champ tout à fait bucolique, et puis la forme abstraite qui est le morceau de viande qu'on a dans nos assiettes. Il était donc fatal que le cinéma s'y intéresse un jour, Jonathan Palumbo, et vous notez d'ailleurs dans votre livre Après la nuit animale que ce n'est sans doute pas un hasard si fin 19e siècle, annonçant le 20e siècle, l'industrialisation donne naissance dans un même mouvement, c'est ce que vous écrivez, au cinéma et à l'abattoir. Alors l'un va tenter de rendre visible l'invisible et l'autre, au contraire, va rendre invisible ce qui est trop visible.
Oui, effectivement, puisque l'abattoir, c'est, on peut se dire que c'est un des lieux et l'une des scènes les plus invisibles de nos sociétés, et en même temps, il fait partie de notre imaginaire collectif, donc il suscite énormément de fantasmes et d'images. Et donc oui, je me suis intéressé à l'abattoir, effectivement, parce que il posait pour moi énormément de questions de cinéma, à la fois éthique et esthétique, puisque j'ai commencé ce travail à l'université à travers la fin de la mémoire, et je ne trouvais pas d'études, à part effectivement sur le sang des bêtes, qui est un monument du documentaire français. Mais à travers cet angle-là de le point de vue animal sur les films. Donc je me suis intéressé à l'abattoir puisque effectivement la question du regard est centrale. L'abattoir a été créé pour éloigner du regard du consommateur la mort animale, et en même temps oui, le cinéma est né à peu près à la même période.
On ne met pas de manière innocente un abattoir dans un film. Camille Brunel, il y a beaucoup de films, finalement, quand on s'y penche, qui prennent en charge la forme de l'abattoir. Il y a le film de Frédéric Wiseman, Myth, il y a un film de fiction de Richard Linklater qui s'appelle Fast Food Nation. Puis on va y revenir, on va en parler tout à l'heure, Gorge, cœur, ventre de Model P, un film qui est sorti il y a 2-3 ans.
Hein. Il y a 3 ans.
Voilà. Et ce qui est intéressant avec votre démarche qui consiste à regarder les films d'un point de vue nouveau, qui est celui de la question animale, c'est ce Massacre à la tronçonneuse, par exemple, dont on a beaucoup parlé, des tonnes et des tonnes d'exégèses dessus, figuration de la guerre du Vietnam, marasme économique aux États-Unis dans les années 70. Mais avec l'œil qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que c'est sans doute un des plus grands films animaliste, c'est comme ça que vous le présentez tous les deux, un pamphlet animaliste, tout simplement parce qu'il renverse le regard, et vous parliez de la question du point de vue animal, là c'est presque un point de vue animal qui est mis dans la tête de l'homme, puisqu'on est dans la peau de la bête, quoi.
Oui, et vous parliez tout à l'heure de l'abattoir comme boîte noire, d'endroit où on ne regarde pas du tout, et c'est, je pensais à Alain Finkielkraut quand vous disiez ça, qui défend l'élevage paysan au nom de la danse des vaches, et on ne peut pas parler de danse des vaches si on a en mémoire le comportement des vaches dans un abattoir, elles ne dansent pas. Et du coup, la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ces critiques, c'est quand j'ai constaté que le film hongrois White God, sorti en 2014, avait été critiqué par énormément de monde, dans un sens plutôt positif, sans que personne ne note la séquence d'abattoir au début. C'est-à-dire qu'il y avait cette scène dans le film était une boîte noire aussi qu'on ne regardait pas, alors qu'elle occupe quand même de la place. Et Massacre à la tronçonneuse, c'est un peu la même chose. Quand on raconte aux gens que ça commence par une description d'abattoir, les gens avaient un peu oublié. C'est une petite scène placée au début comme ça, exactement comme au début de White God, qui aiguille un peu le sens du film, dans un sens une lecture animaliste, mais qu'on a tendance à pas trop regarder.
Et puis pourtant, quand on voit à la suite, comme on l'a fait pour préparer cette émission, Le sang des bêtes et Massacre à la tronçonneuse, on a quasiment des plans identiques, qui est l'animal qui se reçoit un coup de merlin sur la tête.
Ça saute aux yeux.
Et qui va se convulser, dont le corps va se convulser ensuite. Et on a exactement le même plan avec un homme, là, qui pour le coup se reçoit un coup de massue sur la tête et va se convulser pareil. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on montre si souvent, finalement, la mort de l'animal au cinéma, sachant que quand quelqu'un meurt dans un film, il fait semblant de mourir. Quand un animal meurt dans un film, souvent il est tué pour de vrai. C'est presque devenu une tarte à la crème, excusez-moi du mot, du cinéma d'auteur. On va montrer régulièrement des animaux qui meurent, ne serait-ce que pour annoncer la mort des personnages, Jonathan Palumbo.
Oui, classiquement, la mort animale, elle a surtout un rôle de métaphore ou d'annonce de la mort humaine. Et donc c'est en ça qu'elle est assez rarement représentée pour elle-même, c'est-à-dire du point de vue de l'animal. C'est une façon classique et très courante au cinéma de traiter le sujet très épineux et éthique de la représentation de la mort, quoi, mais la mort humaine.
Camille Brunel ?
Oui, et ça commence à changer dans les années 70, au moment où Peter Singer écrit La Libération Animale. On commence à regarder les animaux différemment, peut-être parce que justement le cinéma est là. En fait, le sang des bêtes, ça date de, c'est quoi, c'est les années 50, c'est juste après
1949.
49, voilà, c'est ça. Et il y a eu un temps d'inertie comme ça avant que le cinéma retourne filmer dans les abattoirs comme l'avait fait Franju. Et en 70, vous avez Eustache qui va filmer le cochon là. D'ailleurs, j'avais commencé une conférence il y a quelques années qui mettait en parallèle le cri de la truie dans le film d'Eustache et le cri de la jeune femme dans Massacre à la tronçonneuse, qui est exactement le même. C'est très troublant quand on les met en parallèle. Et dans les années 70, vous avez tout un tas de films d'horreur qui montrent des animaux se faire tuer, parce que c'est une façon de choquer à peu de frais, finalement. Un animal sauvage, ça coûte rien, on va le chercher. Vous avez Waking Fright, par exemple, de Ted Kotcheff, au début des années 70, où on montre à la fin des massacres de kangourous.
Dans le bush australien.
Voilà, qui ont vraiment eu lieu, et là, l'équipe avait dû simuler une panne d'électricité pour que le massacre s'arrête, en fait. Et ici, on sent que, à la fois, la mort des animaux, ici, pour montrer, alors pas tant la mort des humains, mais plus la folie sadique, si bien que ça commence à représenter la mort des animaux pour elle-même. Et ça, on le sent parce que Hooper zoome à un moment donné sur la main d'un kangourou qui ressemble de façon très troublante à la main d'un humain, zoom sur une jambe aussi, et donc il y a quelque chose de la frontière entre la mort humaine et la mort animale qui devient poreuse dans ces images-là. Et par la suite, on a Massacre à la tronçonneuse, et ça se termine avec Cannibal Holocaust au début des années 80, où, que tout le monde a retenu comme un film atroce au nom de ce qui était fait aux humains, aux humaines en particulier, alors qu'en fait 80% de l'horreur dans Cannibal Holocaust, ce sont les animaux qui se sont fait tuer en vrai, en direct. C'est un snuff movie animalier, en fait. Et ça, on y revient maintenant, et le réalisateur Ruggero Deodato a dit qu'il n'aurait jamais fait ça aujourd'hui.
Ce qui arrive dans ces cas, c'est qu'on se demande dans les conditions d'élevage dans quelles sont, on se demande qui c'est qui baise, si c'est l'éleveur qui baise la truie ou quoi. En plus, il faut surveiller si la verge du vérin pénètre bien et ne passe pas à côté, parce que ça arrive assez fréquemment, quoi. Mon niveau à moi, c'est plutôt quand deux truies se cherchent que je ressens quelque chose. Plutôt que. J'ai jamais aimé tellement le côté falot des choses. Alors, je m'identifierais plus à peut-être à une truie à ce moment-là. Souvent, quand j'y pense, c'est de me dire qu'il y a effectivement des rapports comme ça chez les gens, quoi, que ça existe, quoi. Mais que c'est pas ça du tout que j'ai envie de vivre, moi, quoi, alors.
Cochon qui s'en dédie, un film rare et tout aussi dingue que Massacre à la tronçonneuse. Je vous remercie Jonathan Palumbo de m'avoir fait découvrir ce film en parlant dans votre livre Après la nuit animale. On est en 1975, enfin le film prendra 5 ans à être tourné. Il est signé de Jean-Louis Le Tacon, un élève de Jean Rouch, et on est dans un dispositif tout à fait rouchien d'anthropologie partagée avec cet éleveur Maxime qui va raconter et qu'on va voir dans son quotidien complètement sidérant, une sorte de cercle de l'enfer emboîtés les uns dans les autres, qui est l'élevage de cochons en Bretagne, avec ce personnage qui va s'identifier. Et c'est ça qui est très frappant, on l'entend ici. Ce qu'on n'a pas entendu et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à un moment, on le voit même nu dans son lit avec une truie, dans une de ces scènes oniriques qui vient dans du cinéma comme ça direct. C'est très, 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 très étrange. Et apparaît un corps hybride, un corps mi-homme, mi-cochon.
Oui, d'ailleurs, Jean-Louis Le Tacon fera un film 20 ans plus tard, je crois, qui s'appelle d'ailleurs L'Homme Cochon, 20 ans après, où on retrouve Maxime qui revient sur les ruines de cet élevage qu'il abandonne déjà d'ailleurs à la fin du film. Il annonce qu'il abandonne puisque non seulement il n'arrive pas financièrement à gagner sa vie avec ce travail, il se sent vraiment prisonnier de ce métier, et en plus au fur et à mesure du film, effectivement, il y a une identification très forte avec les animaux que lui-même élève dans le but de les faire tuer, donc qui émergent, et effectivement il travaille sur cette identification très forte. Et Camille parlait d'une frontière entre l'homme et l'animal qui se désagrège peu à peu, et ce qui est très fort, c'est que c'était pas prévu, c'est-à-dire que Jean-Louis Le Tacon allait là. Il est breton, il vient dans un élevage de porcs bretons au début de l'industrialisation de l'élevage, puisque c'est à la fin des années 70. Et Jean-Louis Le Tacon disait qu'il allait vraiment là-bas pour Maxime, quoi, enfin pour cet éleveur, qu'il avait rencontré au cours d'un dîner, et qu'il avait été frappé de voir à quel point, au cours d'un dîner entre amis, cet éleveur ne parlait que de son métier et des rêves qu'il faisait la nuit, de lui qui couchait avec ses truies, enfin des choses très étranges, mais qui témoignaient à la fois d'une implication très forte dans ce métier dans lequel il se sentait prisonnier, et en même temps d'une identification qu'il pouvait pas renier, quoi.
Et d'une aliénation totale. Mais alors, cette figure du jeune éleveur, plus ou moins jeune, qui s'en sort pas avec ses bêtes et qui les aime beaucoup, on la voit ressurgir, Camille Brunel, dans le cinéma d'auteurs français récents. On pense à des films comme Sans adieu, de Christophe Agou, Petit paysan, d'Hubert Charuel. On voit des paysans tout à fait exemplaires, quasi amoureux de leurs bêtes. Sauf que, vous le notez, Camille Brunel, d'un point de vue antispéciste ou animaliste, ça pose quand même un problème, parce que cette exemplarité, je vous cite, se constitue dans les deux cas sur l'escamotage du sort des veaux dans les exploitations laitières, et se confronte de manière assez brutale avec ces fameuses vidéos du collectif L214, ces vidéos volées entre guillemets dans les abattoirs, ou en tout cas filmées tout à fait clandestinement, mais très largement diffusées. C'est une guerre du visible qui est en cours, écrivez-vous. Mmh.
Ouais. Bah, y a un escamotage des veaux, et en fait, maintenant que j'y pense, il n'y a pas seulement un escamotage des veaux dans les histoires d'élevage laitier. Il y en a énormément en ce moment. Enfin, énormément. Vous avez cité Sans adieu. Je pense aussi à la famille Bélier, qui raconte l'histoire d'une famille d'éleveurs fromagers. Et si on représente des éleveurs de vaches, c'est parce que en France, ce sont les élevages qui restent les plus extensifs. C'est-à-dire que si vous prenez les lapins, les cochons ou les poules, on est dans l'intensif beaucoup plus. Donc si vous faites un documentaire sur des éleveurs de ces animaux-là, vous allez avoir beaucoup plus de mal à faire quelque chose de crédible dans un domaine extensif. Or, on a quand même envie de rassurer un peu, de pas braquer le public, et donc on va se tourner vers l'élevage bovin. Et dans ces cas-là, effectivement, essayer d'éviter autant que possible de raconter ce qu'on doit faire des veaux. Alors, ce qui m'avait intéressé dans Petit paysan, c'est qu'il y avait un vrai acte manqué, puisque à la fin, le veau qui se fait euthanasier, ce qui est vraiment de l'ordre de la fable, vraiment du petit doudou qu'on raconte aux gens pour qu'ils soient pas trop horrifiés par ce qui se passe vraiment. Donc, le petit veau se fait euthanasier par son éleveur qu'il aime de tout son cœur, alors que voilà. Et il le fait sur un canapé en cuir, ce qui est très ironique, et chose que, de la même manière qu'on ne parle pas des scènes d'abattoir au début de White God, la massacre à la tronçonneuse, on ne parle pas du canapé en cuir dans Petit Veau. Évidemment, c'est un détail, mais il est assez signifiant à mon sens.
Et c'est ça, c'est une vraie différence sans doute dans les évolutions entre ce qui se passe aux États-Unis et en France. Mmh. Vous le notez, Jonathan Palumbo, que la libération animale envahisse les écrans et les esprits outre-Atlantique, là je vous cite, ne semble pas influencer un cinéma français davantage attaché à la peinture sociologique de la condition ouvrière, voire paysanne, avec une exception toutefois. C'est un livre dont vous parlez, d'un film pardon, dont vous parlez tous les deux avec beaucoup d'émotion, un film de 2016 hein, dont je parlais tout à l'heure, Gorge, cœur, ventre de Modalpi, et vous parliez du regard animal sur le massacre des animaux. Et en l'occurrence, là, c'est le regard d'un chien, et ça change tout. Jonathan Palumbo.
Oui, je pense que ce qui a été trouvé et qui est très fort dans ce film, c'est justement de pas avoir essayé d'approcher à travers le point de vue de ce jeune homme qui travaille dans un abattoir cette réalité-là, mais de passer par le prisme du regard de son chien qui est là avec lui, et voilà, dans une sorte de triangle entre les animaux d'élevage qui sont au seuil de leur mort, cet animal qui est privilégié puisque il est auprès de l'homme, quoi, c'est le meilleur ami de l'homme, mais qui quand même a un contact avec ces animaux-là.
Et puis comme Maud raconte, le chien ne savait pas en fait s'il allait pas y passer lui aussi. Il sentait le sang, oui, la peur, les hormones des animaux terrifiés, et il avait aucun moyen de savoir s'il n'était pas le prochain en fait.
Vous faites un lien d'ailleurs, Camille Brunel, puisque vous en avez parlé, du White God de Cornel Mundruczo, avec ces chiens qui envahissent la ville, là, une sorte de convergence des luttes entre les différents animaux.
Il y a une relation aussi de l'humain au chien qui est un peu similaire dans White God et dans Gorge, cœur, ventre, puisque dans les deux cas, il fallait surtout pas que ce soit une relation de domination. Il y a une scène dans White God où la petite fille regarde un homme apprendre à son chien à s'asseoir, et elle dit au chien, mais moi je te ferai jamais ça. Et donc il y a plus une volonté de montrer d'un compagnonnage de l'humain avec l'animal. Et quand Maud Alpi a casté ces personnages, elle voulait quelqu'un qui ait déjà une relation avec son chien. Elle a casté l'homme et le chien pour ne pas avoir de dresseur ou je sais pas quoi. Et donc le chien était avec son humain sur le plateau. Si bien que on parlait de regard tout à l'heure, et c'est là que les abattoirs sont évidemment un endroit particulièrement intéressant, parce que donc ça cache le regard des gens qui sont à l'extérieur. Une fois qu'on y est, on essaie de regarder autant qu'on peut tout ce qui se passe, parce que c'est caché au regard des animaux, et c'est justement ce regard des animaux-là que Maud essaie de saisir dans Gorge, cœur, ventre. Et il y a tout un art dans ce film-là de décadrer la caméra qui est prisonnière du labyrinthe réservé aux humains pour se tourner vers le regard des animaux qui sont dans un autre labyrinthe sur le côté, et d'arriver à saisir l'œil des vaches. Ce que faisait Toby Hooper dans Massacre à la tronçonneuse à la fin, quand la jeune femme attachée au buffet ne peut plus parler tellement elle a peur, et donc on filme ses yeux terrifiés à ce moment-là.
Alors, des yeux terrifiés, on va en voir d'autres, parce qu'on va nous accuser de ne parler des animaux que quand on les tue, que quand on les séquestre. Ça doit être l'effet salon de l'agriculture hein, qui s'achève demain. On peut cependant concentrer beaucoup d'animaux dans un même plan et qu'ils s'en portent fort bien, et c'est alors dans l'œil de l'homme qu'on lit l'effroi.
Come on, lion. Come on, lions. Come on, Diane. Come on, Michael. Come on, Patrick.
Are you sure there aren't any more big ones in here?
Well, hello, Gary. Whoa. Why did you go with your friend? Oh, come on, you should go with your friends. Oh, come on.
You really changed this place. New curtains, new drapes, new everything.
Come on, go with your friends. Wow, come on. Oh, yes. You have to go with your friends. Come on. Come on. Don't worry, baby. Robbie can handle Togard. Your father's tougher than you think. Come on. Wow. Oh, come on, you hurt my hand. See, your hand hurt. Wow. Come on, baby. Wow.
Vous écoutez France Culture, plan large sur les animaux et le cinéma qu'on en fait avec Camille Brunel, Jonathan Palumbo et Fernando Ganzo. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Roar, film complètement improbable de Noël Marshall, qui est sorti il y a un an. Il aura fallu 10 ans pour le tourner, ce film, où il est assuré dès le générique du début et non à la fin, comme c'est d'usage, qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage, qui n'est pas le cas des 70 personnes qui, elles, ont été vraiment bien blessées pendant ce tournage, qui lui a valu son titre de film le plus dangereux de tous les temps.
Mais elles étaient consentantes.
Eh ben voilà, c'est ce qui compte. La pire idée de toute la longue et triste histoire des mauvaises idées, dira Jeff Goldblum. L'idée, la mauvaise idée ou l'excellente idée, c'est de tourner un film dans un ranch en Californie que possède le réalisateur Noël Marshall et sa femme qui n'est rien d'autre que Tippi Hedren, à peine remise du traumatisme du tournage des oiseaux d'Hitchcock. Alors il y a quelques animaux qu'ils ont recueillis dans ce ranch, une vingtaine de lions, des tigres, des panthères, il y a même des éléphants,
des pumas, c'est n'importe quoi.
Voilà, enfin, il y a toute la faune la plus dangereuse possible qui est réunie dans ce ranch, avec des plans qui auraient certainement réjoui André Bazin s'il avait pu voir le film qui est sorti quand même en toute discrétion à l'époque, en 1980, qui a été vendu un peu partout dans le monde comme un film d'horreur. Donc le principe, on réunit dans le cadre des humains et des animaux parmi les plus dangereux du monde. Quand Noël Marshall, qu'on vient d'entendre parler avec son lion Gary, se fait mordre la main, il se fait vraiment mordre la main, il va d'ailleurs attraper la gangrène à force de se faire blesser de partout. Et alors c'est pour vous, Camille Brunel, et je partage assez cet avis, une véritable cinégénie du bonheur, c'est ce que vous écrivez, avec des animaux tellement imprévisibles, évidemment, qu'on finit par les créditer comme co-auteurs du film.
C'est ça, au début, dès le générique de début aussi. Et ce qui aurait réjoui Bazin, oui, voilà, c'est qu'il n'y a pas de montage. Et donc le montage constitue une frontière entre l'humain et l'animal dans les films où on est obligé de faire croire que l'acteur est confronté un animal dangereux sans le mettre en danger, et c'est triste en fait. Et là, c'est une cinégénie du bonheur parce qu'on est heureux de voir que cette séparation a disparu, que l'humain est au contact des animaux vraiment dans le plan. On voit vraiment Tippi Hedren et Noël Marshall nager dans un océan de lionnes. Il y a une scène où il ouvre les portes de son ranch et il y en a des dizaines à l'intérieur. C'est absolument fabuleux.
Il y a Mélanie Griffith dans l'affaire aussi qui voilà, saura refaire le visage
et
par
les cheveux. Et qui démonte, et c'est ça, moi, personnellement, qui me rend heureux, le cliché de l'animal comme machine. Parce que on imaginait jusque-là les grands félins comme des machines à tuer. On imaginait que si on rentrait dans un enclos avec une lionne, elle c'était la chasseuse, donc elle vous sautait à la gorge et elle croquait. Et ça, en fait, c'est un relent du machinisme à la Descartes, qu'on n'aura jamais vraiment fini de d'écarter du plateau. Montrer qu'une lionne ou qu'un lion est capable de se retenir, de chasser parce qu'il reconnaît la personne en face de lui, c'est déjà une façon de suggérer qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du lion, que ce lion-là n'est pas le même que le lion qui vit dans la savane et qu'il a des relations avec les gens autour de lui qui dépendent de son histoire personnelle.
Et ce sont d'autant plus des individus qu'ils ont des noms. On a entendu Noël Marshall appeler son lion par son prénom,
Gary.
Au même moment, il y a un autre animal qui va avoir un nom, c'est Coco.
Coco,
le gorille qui parle de Barbet Schroeder, un film complètement repoussé par tous les scientifiques. C'est pas possible, on va pas discuter avec un gorille, parce que c'est une chose de parler à son lion, mais quand l'animal vous répond par le langage des signes, ça donne ce film extraordinaire qui est Coco. Et nommer l'animal et l'individualiser, c'est pour vous l'étape la plus importante. Et avec un vrai nom, on n'est pas dans le roi lion où on va appeler le lion Simba, parce que Simba ça veut dire lion en swahili. Donc on continue à avoir un individu générique.
Ce qui se passe en plus dans Coco, c'est que vous avez dit individualiser l'animal, et c'est très juste parce qu'on peut avoir tendance à dire qu'on humanise l'animal quand on lui donne un nom. Et effectivement, c'est pas ça, c'est l'individualiser, c'est pas la même chose. Et Penny Patterson, donc la primatologue qui s'est occupée de Coco dans les années 70 et pendant les décennies qui ont suivi ensuite, hein, puisque Coco est morte il y a un an, et elle a vécu avec Penny Patterson. Donc dans le film de Schroeder qui sort au moment de la libération animale, en 78 je crois, Penny Patterson raconte qu'elle n'est pas en train de humanize Coco, mais de peopleize Coco, c'est-à-dire d'en faire une personne. Et elle espère, dit-elle, que Coco se considère comme une personne. Et ce qui est assez étonnant avec ce film, mais encore une fois, c'est parce qu'on a eu la caméra pour le filmer qu'on arrive à le croire, c'est que Coco a effectivement conscience d'être un gorille. Elle le montre à un moment donné, Penny l'explique, quand on lui montre un livre d'images, elle sait reconnaître, distinguer les autres animaux de ce qu'elle est elle. Si bien que on n'est pas loin finalement d'un « je pense donc je suis » appliqué au gorille. Dans la tête de Coco, elle se le formule pas en français, mais il y a un « je suis un gorille et je le sais ». Donc il y a une conscience.
Alors ce qui est paradoxal, c'est que pour revenir à Roar, Noël Marshall et Tippi Hedren vont militer après ce film auprès du Congrès américain. Ils vont demander l'interdiction de l'achat des grands félins à titre privé, alors que c'est précisément grâce à ça que le film a été possible. Mais au moins dans Roar, on ne nous fait pas prendre des vessies pour des lanternes, on nous fait pas prendre des animaux apprivoisés pour des bêtes sauvages. Ce qui, même dans les films de fiction les mieux intentionnés, et même dans les films documentaires, n'est pas toujours le cas. Océan de Jacques Perrin et Jacques Luzeau, c'était en 2009. Vous aurez peut-être reconnu les sons de quelques cétacés nageant et sautant sur les cordes de Bruno Coulet. Le documentaire animalier, c'est un genre en soi qui est peu étudié dans l'histoire du cinéma, il me semble. Donc merci de vous y atteler. Camille Brunel, c'est un genre qui est assez grands anciens, comme Jean Painlevé, qui a commencé avec ce paradoxe que vous relevez dans votre livre « Le cinéma des animaux ». Le cinéma, je vous cite, n'a pas beaucoup filmé de vrais animaux, et ce, depuis ses origines. Parce qu'il est né quand les animaux étaient morts et que fatalement, le cinéma de la nature, Jean Painlevé compris, est d'abord un cinéma de l'animal faux, enfermé, prisonnier, encagé, parce qu'au moment des premières caméras, toutes les forêts étaient vides.
Oui, on a tendance à imaginer qu'on a tout perdu là aujourd'hui au début du 21e siècle, mais en fait c'était encore pire à la fin du 19e quand l'écologie n'était encore même pas un souci. Si bien que Jonathan, tu parles de l'apparition du cinéma au moment de l'apparition des abattoirs, donc révéler quelque chose qui disparaît, et je dis un peu la même chose mais avec les animaux sauvages en fait, c'est-à-dire que le cinéma permet de les filmer au moment où ils disparaissent. Et c'est pour ça que je mentionne à la fin l'apparition des effets spéciaux numériques qui permettent de faire réapparaître les animaux sauvages sans avoir à les faire venir sur le plateau dans des cages, etc. Puisqu'un animal qui est un tigre, si on veut, s'il a grandi dans une cage toute sa vie, c'est pas un animal sauvage, c'est un animal domestique. Et on nous fait prendre des vessies pour des lanternes dans 90% de l'histoire du cinéma, quand c'est deux frères de Jean-Jacques Hano, par exemple, où en gros le tigre qui traverse était en train d'aller chercher à manger hors champ, quoi. Et ça, c'est un vrai problème, puisque ça crée une distance entre le public et l'animal. C'est lui laisser croire que, bon, c'est grosso modo un animal que vous avez en face de vous, puis satisfaites-vous de ça.
il faut vous en satisfaire. Là, vous parlez de la fiction quand vous parlez des films de Jean-Jacques Hano. On pourrait parler de l'ours, évidemment. Ouais. Mais quand on est dans le documentaire ou qui s'affiche comme tel, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Quand dans le peuple migrateur, on va faire voler des oies qu'on a imprégnées, comme on dit, de la présence humaine. C'est-à-dire qu'on a dressé tout simplement à pouvoir suivre c'est un ULM à l'époque qui les filmait. C'était pas encore les drones. Quand on va aller encore plus loin, où on va mettre un faux requin, par exemple, un faux requin blanc dans Océan, et ça, il faut vraiment chercher dans le générique pour comprendre.
Savoir que c'est un robot qui a été découpé.
Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et en quoi ça continue à nous parler des animaux malgré tout?
Alors, ça continue à parler parce que c'est un choix éthique, en fait, et qu'on se pose tout d'un coup des questions éthiques dans la façon de représenter les animaux. Plus question de filmer, par exemple, une scène, une vraie biche se faisant vraiment courser par un lynx au risque que qu'elle se fasse zigouiller sous la caméra. Dans la scène de chasse des saisons, le lynx et la biche qui se courent après ont en fait été élevés ensemble et sont amis et sont en train de jouer sur l'écran. Alors effectivement, ça montre des animaux qui sont en train de jouer, presque au sens où les comédiens jouent devant la caméra, mais c'est précieux parce que ça dit quelque chose de l'attention portée par les cinéastes aux animaux. Et ça, Jacques Clouzot et Jacques Perrin sont en tête de ce mouvement-là. Parce que au début, enfin Océan qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un pur documentaire. Ils ont plongé dans l'eau, ils ont filmé des animaux qu'ils connaissaient pas et ils ont ramené les images à la surface. Les saisons, c'est déjà plus ça du tout. C'est un film, c'est une fiction. Donc les animaux sont imprégnés. Le lynx et la biche jouent, mais on nous fait pas croire que c'est de vrais animaux puisque c'est une fiction. C'est un film historique en fait, les saisons. Et l'idée aussi d'introduire une histoire du côté du documentaire animalier est extrêmement précieuse. Il y avait ça en germe dans Océan parce qu'on voyait des dauphins passer sous une caravelle à un moment donné, puisque c'est sous-entendre que les animaux sont pas éternels, ont pas toujours été les mêmes. Ce qui est encore une fois une idée qui était dominante dans 90% de la production du cinéma. C'est montrer que les animaux ont été différents à l'époque des Romains, au 19e siècle et aujourd'hui, et que donc on a une histoire avec eux, on évolue avec eux et que ils ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui va dans le sens de l'idée d'individu en fait, de personne animale qui s'adapte en fait à leur environnement et sont pas juste des machines identiques quel que soit le siècle.
À propos des saisons, vous écrivez aussi à quel point le changement d'un axe de caméra peut tout changer sur la façon dont on voit un animal. La position classique, le mouvement classique du cinéma animalier documentaire, c'est le panoramique. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est planqué, un filmeur qui est planqué et dissimulé, camouflé pour que l'animal ne le voit pas. Il va faire un panoramique gauche-droite, droite-gauche ou vertical selon ce qu'il filme. Faire un travelling et notamment un travelling arrière, vous parler de ce travelling arrière sur les chevaux qui galopent et tout d'un coup on ne les voit plus de profil mais on les voit de face, c'est-à-dire qu'on voit leurs yeux, change tout.
Oui, on parlait tout à l'heure du changement d'axe dans l'abattoir qui obligeait à se tourner vers les yeux des vaches. Et dans le documentaire ici, on arrive à filmer, à cadrer le visage des chevaux quand ils galopent. Et dans Océan, à filmer les dauphins de face. Puisque c'était quelque chose qui était impossible à une époque. Quand on mettait une caméra dans l'eau, les animaux avaient plutôt tendance à foutre le camp. Donc on pouvait filmer que les queues. Et là, tout d'un coup, François Sarano, Jacques Perrin et Jacques Clouzot ont réussi à mettre au point une torpille qui était traînée comme ça derrière un bateau. Si bien que les animaux, on arrivait à voir leur visage quand ils avançaient. Et dans Océan, ils font la même chose avec les chevaux en mettant au point un quad qui permet de slalomer entre les arbres pour, encore une fois, changer une chose dans la façon de filmer les chevaux qui est qu'au lieu de les filmer de l'extérieur de la forêt, puisque à l'époque il fallait mettre la jeep avec le travelling à l'extérieur des arbres, on arrive à être avec eux au milieu des arbres. Et alors, ça, c'est pas Bazin qui le disait, j'aurais dû réviser, mais il y a un critique très important qui disait que le zoom traduisait de la phobie et le travelling du désir. Et effectivement, la posture habituelle du documentariste animalier planqué dans sa cahute avec la panthère des neiges au loin, c'est le panoramique et le zoom. Et là, on arrive à mettre au point des travelling. Et même si on prend les derniers documentaires de la BBC, la suite d'Un jour sur Terre, qui pose tout un tas de problèmes par ailleurs, mais ils ont réussi à accompagner les animaux dans leur mouvement. On n'est plus humain planté d'un côté en train de regarder de loin, en ayant un peu peur, on les accompagne, on les suit. Donc on n'a plus peur d'eux. Et ça aussi, c'est fondamental, évidemment.
Le zoom est-il fasciste? C'était une des grandes questions que se posait le cinéma militant et Jean-Louis Comolli. Hein, notamment, c'est peut-être de lui. Merci. Cette citation.
Come on!
Vous écoutez France Culture, plan large sur le cinéma des animaux avec Camille Brunel, Jonathan Palumbo et Fernando Ganzo. Dernier film à notre programme, L'Odyssée de Pi d'Angli en 2012. Ce qu'on vient d'entendre, c'est cette lutte à mort sur une barque entre un orang-outan et une hyène devant un zèbre agonisant avant qu'un tigre ne surgisse dessous la bâche et ne mette tout le monde d'accord.
C'est mon film préféré.
L'Odyssée de Pi, on le sent, c'est votre film préféré, Camille Brunel, parce que vous dites c'est l'alpha et l'oméga de la question animale et en particulier parce qu'il pose la question très figurativement sur cette petite barque de la coexistence, du partage de l'espace entre une espèce et une autre.
Exactement. Il y a ça qui est important au début, quand le jeune indien pourrait tuer le tigre et renonce à le faire parce qu'il se rend compte déjà qu'il y a quelqu'un dans le tigre, il regarde ses yeux et il y a un moment où c'est explicité plus tard où il se voit lui-même. Mais ce que ça veut dire, c'est pas qu'il voit un humain dans le tigre, c'est qu'il voit quelqu'un. Et il décide du coup de se donner la peine de faire exister le tigre alors même que ça lui complique l'existence. En fait, ça lui donne du sens aussi. Et ça, c'est très précieux. Et l'autre raison qui est intéressante, raison pour laquelle j'aime autant l'Odyssée de Pi, c'est que le tigre est numérique. Alors il y a deux plans où il y en a un vrai qui ont posé problème du coup parce que le tigre a failli se noyer, mais tout le restant du film, tout le restant du temps, le tigre a été dessiné, recréé par ordinateur, par toute une armada d'artistes qui ont du coup prêté attention aux micro-mouvements d'un tigre, aux micro-expressions qui font que ça n'est pas un dessin animé, mais un tigre sauvage. Et ça, évidemment, c'est en train de se développer. Il y a eu le livre de la jungle de Jon Favreau en 2016, où toute la faune était numérique. Là, il va y avoir le Roi Lion qui va ressortir, où il n'y a pas un seul lion qui est arrivé sur le plateau. Et ça, en fait, c'est assez beau parce que c'est une façon de... Au contraire, on a l'impression que parce que c'est de la synthèse, ça nous éloigne de l'animal, mais je pense que ça nous y rapproche. D'une part parce que ça implique un choix éthique de ne pas exploiter d'animaux, et d'autre part parce que ça implique quand même de vachement bien les connaître, les animaux, pour les recréer avec une telle précision. Et dans la scène là qu'on a entendue où le tigre tue la hyène, il se passe aussi quelque chose d'intéressant parce que je parle de ma nièce Eva à un moment donné dans le bouquin.
Vous citez beaucoup votre nièce Eva.
Ouais, voilà, dans le texte. Alors, dans le prochain bouquin, je citerai peut-être ma chatte, ça va être encore pire. Mais alors, pour l'instant, j'en suis à ma nièce. Et je lui ai appris à regarder les films en considérant les animaux comme des personnes, évidemment. Et si bien que quand la hyène, qui est censée être la méchante sur la barque au début du livre, puisqu'elle tue l'orang-outan et elle tue le zèbre, se fait tuer elle-même par le tigre, ma nièce fond en larmes à ce moment-là. Et je dis, mais t'es pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es triste? C'est la méchante. Et elle me dit, mais elle a pas fait exprès. Elle avait faim. Et en fait, j'ai été complètement dépassé par, en fait, ce que suggère le film, qui est de prendre le parti des animaux, quoi. Elle était en avance et pleurait à un moment où j'ai été complètement décontenancé.
Ah, c'est la fable d'Orson Welles dans Monsieur Arcadine, hein. Le mystère Arcadine, la fable du scorpion et de la grenouille, c'est dans ma nature. Et la pauvre hyène, n'y peut rien, mais on est quand même dans ce paradoxe. Vous parlez aussi de Noé, hein. Le film de Darren Aronofsky, qui à mon sens n'est pas une grande réussite, mais que vous saluez comme le premier film vegan, parce qu'il n'y a pas un seul vrai animal, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous ressentez ça, Jonathan Palumbo, le fait que les animaux, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, disparaissent de la surface de la planète, ou est-ce qu'on les retrouve à l'écran, mais de manière virtuelle pour le coup. Enfin, on ne pourra plus voir de vrais animaux, entre guillemets.
Oui, et à chaque fois que les films font ça, Noé ou l'Odyssée de Pi, à chaque fois, c'est des animaux, ce sont des vrais personnages, quoi, qui ont une vraie existence. Et donc, les recréer, effectivement, ça force à non seulement une grande observation, une grande connaissance, donc à se rapprocher d'une certaine humilité, je pense. Peut-être que prendre des animaux et les dresser, c'est une sorte de solution de facilité qui ne nous rapproche pas d'eux, quoi, une sorte de... d'issue malheureuse.
C'est-à-dire qu'on a toujours mal vu, les animaux. Les animaux qu'on nous a donnés à voir, soi-disant authentiques, filmés pour de vrai, entre guillemets, ont toujours été faux.
Voilà, bon, de temps en temps, il y avait des accidents. Je parle de Misfits, à un moment donné, où Marilyn Monroe prend le parti des Mustangs et se met à tirer du côté de la corde, du côté des Mustangs. Et où là, John Huston, presque malgré lui, filme une vraie détresse, en fait. Et il y a plusieurs fois dans la scène de chasse au Mustang, à la fin des désaccès, où la musique accompagne plus, guide le spectateur vers ce qui se passe dans la tête des chevaux, quoi. Je pense à un moment donné où le poulain se casse la figure parce qu'il se prend les pieds sur la corde qui est autour de sa mère, et il y a un coup de cymbale à ce moment-là qui souligne le fait que le poulain est tombé aussi. Alors qu'on aurait très bien pu juste émousser un petit peu, comme tu racontes d'ailleurs dans dans ton livre, quand Jocelyne Porcher a demandé, quand il y a eu la ressortie Jocelyne Porcher qui est chercheuse à l'INRA et qui défend l'élevage paysan, donc qui est pas vraiment très copine avec les véganes et les antispécistes. Et elle a travaillé sur le montage de Cochon qui s'en dédie et a demandé que certaines scènes soient coupées, donc qu'on émousse un petit peu les bords tranchants.
De Thierry chez Pauline,
c'est un autre film du
film de Jean-Louis Le Tacon qui du coup tourne toujours autour de Cochon et de sa mise à mort, alors qu'au départ c'est pas ça qui l'intéresse quand il fait Cochon qui s'en dédie, mais finalement tous ces films parlent de ça. Effectivement, Jocelyne Porcher était consultante au montage sur ce film-là qui s'appelle Tuerie chez Pauline et qui raconte justement la mise à mort d'un cochon chez des paysans, enfin des citadins qui deviennent paysans, qui veulent une sorte de retour à un élevage beaucoup plus
traditionnel,
familial. Et donc elle a demandé à raccourcir le moment de la tuerie, parce que après une projection de test en quelque sorte, effectivement il y avait des gens qui sortaient de la salle, etc. Mais en même temps c'est le projet du film.
Parce que les animaux étaient un peu trop vrais en fait.
Oui. Et on montrait ce qu'il ne fallait pas montrer.
Et aussi parce qu'ils étaient regardés par un enfant. Et ça, vous le notez, le regard enfant sur la mort animale est récurrent dans le cinéma. Jonathan Palomo.
Oui, ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure sur Boston.
C'est le regard du chien aussi, c'est le regard qui n'a pas encore appris en fait les codes du spécisme et de la violence.
Oui, qui a un peu dépouillé de toutes ces frontières et ces filtres qui fait qu'on regarde les animaux comme des choses et des moyens pour parvenir à nos fins. L'enfant, je parle aussi du film de Bellatar, Le Tango de Satan, où la petite fille justement regarde à la fois le théâtre humain qui se déroule autour d'elle avec tout son cortège de violence, et en même temps reproduit et agit elle-même comme une meurtrière, puisqu'elle a un chat qu'elle finit par tuer, etc. Donc oui, c'est une sorte de biais par lequel on passe assez régulièrement pour donner à voir la violence à l'encontre des animaux.
Atari de Wardox, c'est peut-être Camille Brunel, ce film brutalement décomplexé, odieusement spéciste, qui s'adonne à toutes les bassesses possibles et imaginables, y compris sexistes et colonialistes, que vous dénoncez dans votre livre. Sa musique est quand même formidable. Forcément, elle est signée Henri Mancini. Merci à tous les deux, Camille Brunel et Jonathan Palumbo. Vos livres, Le cinéma des animaux et Après la nuit animale, sont édités respectivement par UV Éditions et Marest Éditeur. Et puis, pour ceux que la question animale intéresse ou interroge, on vous renvoie vers la grande table de mercredi dernier. Le roman Animal était au menu d'Olivia Gesbert avec Vincent Ravalec pour Sainte-Croix-les-Vaches, Le Retour d'Horace, et Oscar Kopfan pour son Procès du cochon. Si vous rêvez de rencontrer Michael Snow, l'auteur de La Région Centrale et son fameux panoramique à 360 degrés, influence majeure, on l'a souvent raconté ici, de Chantal Akerman, sachez qu'il sera invité d'honneur des rencontres internationales Paris-Berlin du 5 au 10 mars dans divers lieux parisiens. Manifestation au Clair-Denis, programme également une carte blanche. Si votre truc c'est plutôt James Ivory, sachez qu'il honorera de sa présence la toute première rétrospective intégrale consacrée à son œuvre en France. Ce sera dans le cadre du festival Écran Mixte à Lyon du 7 au 15 mars. Et puis enfin, si comme Fernando Ganzo, vous vous passionnez pour le cinéma fantastique et horrifique espagnol des années 60 à nos jours, 30 films avec des morts vivants, des enfants monstres et autres créatures réjouissantes sont proposés par le Forum des Images à Paris. C'est jusqu'au 31 mars. En salle de cinéma, vous pouvez voir depuis mercredi une rétrospective du grand cinéaste grec Mikael Kakoyanis en 3 films, Le Réveil du Dimanche, La Fille en Noir et Fin de Crédit, en version restaurée également Les Amants du Capricorne d'Alfred Hitchcock, en attendant sa sortie pour la première fois en Blu-ray. Charlotte Garçon nous parlera du film samedi prochain dans Plan Large. Mais s'il est un film dont on attend impatiemment la sortie mercredi prochain, c'est celui-ci.
When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September.
Hola. Esta película es así. Son 6 historias. Hay 4 que empiezan y no terminan. Terminan en la mitad. Son 4 comienzos. Después hay una que empieza y termina, y después hay otra que empieza en la mitad y termina todo el film. La película se llama La Flor. Y las 6 historias no tienen otra conexión entre sí que sus 4 actrices que trabajan en todas las historias haciendo personajes diferentes. Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. La película está hecha con ellas y, en algún punto, es sobre ellas. La estoy haciendo hace 5 años. Iba por acá.
Au festival de Locarno, l'été dernier, un film faisait fureur, l'objet de toutes les discussions. Un film présenté comme une réponse du cinéma aux séries télévisées par le directeur du festival, Carlo Chatrian. Une œuvre monstre de 14 heures en 6 épisodes, comme l'a présenté dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est au début du film son réalisateur, l'Argentin Mariano Ginas. Ce film, c'est La Flore, et ceux qui en sortaient à Locarno proclamaient tout à fait extatique. Il y aura un avant et un après La Flore, rien que ça. Cette œuvre monstre qui rassemble 4 actrices dans des rôles différents et à peu près tous les genres et toute l'histoire du cinéma. Il aura fallu, comme pour Roar, 10 ans de tournage sauvage à travers le monde pour la réaliser. L'histoire secrète de ce film, vous la racontez dans le nouveau numéro de Sofilm, Fernando Ganzo. Et manifestement, pour celles et ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, pour eux aussi, il y aura un avant et un après La Flore.
En tout cas, c'est presque sûr que dans les prochaines semaines, on va beaucoup entendre parler de ce film, La Flore, de son réalisateur Ginas, de ses 4 protagonistes, Valeria Correa, Elisa Carricajo, Pilar Gamboa et Laura Paredes.
Vous l'avez prononcé beaucoup mieux que je ne l'aurais fait.
Qui sont réunis par ailleurs comme troupe de théâtre sous le nom des Piel de Lava, Peau de Lave. Et si ça arrive, c'est mérité et c'est juste, c'est normal. Parce que avec ces 6 épisodes qui sont diffusés en 4 parties en France, pour un total de presque 14 heures de film, vous allez voir des genres cinématographiques différents, vous disiez bien Antoine, des expériences formelles inouïes, des récits boulimiques en forme de poupées russes, si on veut. Ceci dit, quand on parle avec tous ceux qui ont fait La Flore, dans le long reportage qu'on y consacre dans ce film, on comprend très vite quelque chose, que cette ambition du film, qui est énorme, surgit dans une modestie des moyens qui fait presque penser à quelque chose de révolutionnaire. Tout commence quand le réalisateur Ginas découvre une pièce de théâtre de Piel de Lava, qu'il décide d'adapter tous ensemble au cinéma. Mais, entre-temps, Ginas va réaliser un film qui fait trembler le sol de la cinéphilie argentine, qui s'appelle Historias Extraordinarias, très long métrage, qui tient les spectateurs en haleine pendant plus de 4 heures, tourné avec une caméra mini DV, qui signifie le retour aussi de ce qu'il y a de mieux dans la fiction argentine, c'est-à-dire Borges, Hugo Santiago. C'est une œuvre fleuve qui est un rêve presque, je dirais, pour tout cinéphile. Et après ce film et ce succès, on va dire, Gina se rend compte de quelque chose, c'est que dans le cinéma, c'est très dur de commencer avec des petites choses. Et si le film qui va suivre Historias est juste une petite adaptation d'une pièce de théâtre, ça risque de ne pas être pris au sérieux. Donc, lors des discussions avec Pilar, Laura, Elisa et Valeria, les idées arrivent, il y a plein d'histoires qui commencent à surgir, et ils vont décider de les rassembler dans un seul long métrage composé de 6 films, où les mêmes actrices vont interpréter, on l'a dit, à chaque fois des rôles différents. Quand Ginas dessine la structure de ces histoires, il y a l'une des 4 femmes qui dit « c'est drôle, ton dessin, on dirait une fleur ». Et donc ça y est, ils ont un titre, ils ont une structure, quelques trames, et la suite est une longue histoire, effectivement, des 10 ans de tournage, surtout dans les paysages argentins. Mais il y a aussi, quelque part, l'envie de se laisser emporter, je pense, par le vertige fou des récits qu'ils commencent à trouver. Et par exemple, il y a un épisode très long, truffé d'images à Fritz Lang, où, sur 4 espionnes en pleine guerre froide. Chacune des actrices et des personnages aura droit à son propre flashback tourné à un endroit différent du monde. Entre Paris, Londres, Vienne, la jungle colombienne, la Sibérie. Mais alors, comment on fait ça quand on n'a pas d'argent? Alors, ils vont trouver un système D. C'est-à-dire, s'il y a une actrice qui part avec une pièce de théâtre dans un endroit proche de là où ils veulent tourner, Ginas réussit à se faire inviter par un festival obscur de cinéma quelque part, et ils vont aller filmer à 2 pratiquement parfois ces histoires incroyables qui ont forgé le passé des personnages. Et ça donne une telle diversité que le 4e épisode, qui est peut-être mon préféré, met en scène de façon totalement délirante le propre tournage du film. Ce qui devient un jeu godardien sur l'idée du travail, et dans l'amour et dans le cinéma. Le rapport de force entre technique et équipe artistique dans un tournage, l'espoir d'une révolution. Il y a même une étrange obsession autour des arbres qui nous contemplent pendant des siècles comme des vieux voisins méchants. Et donc, pourquoi vouloir raconter toutes ces histoires toujours donc avec ces mêmes visages? En fait, tout remonte à une visite de Ginas au musée d'Orsay. Et là-bas, en y regardant l'étoile des Manet et le visage de son modèle Victorine Morin, comme Olympia, comme Espada, comme joueuse de guitare, etc., Ginas se rend compte, quand il sort du musée à la fin, qu'il ne voit plus Olympia et qu'il ne voit plus la joueuse de guitare, mais qu'elle voit Victorine Morin, son vrai visage, et que la fleur pourrait être un peu la même chose. C'est-à-dire 14 heures proposées au spectateur, dont on sortirait à la fin avec un véritable portrait des 4 femmes, leur vérité. Car ce film, qui n'est même pas présenté comme un film de Mariano Ginas, mais comme un film de Piel de Lava et El Pampero, qui est un groupe de cinéastes dont Ginas fait partie, qui tourne des films en permanence, en occupant tous à chaque fois des postes artistes et techniques différents, ça donne comme résultat une aventure, la fleur, d'une vie, la plus forte, peut-être, expérience artistique jamais vécue par ce groupe de personnes, mais c'est une aventure qui s'étend pendant 10 ans, où tout le monde fait tout. C'est que, pour moi, la fleur, finalement, n'est pas seulement une espèce de, si on veut, un coup de pied dans la fourmilière du cinéma contemporain, mais même une remise en question extrême de ce que l'on appelle toujours la politique des auteurs.
Mi chica no se hace la star, no se pone anteojos de sol, no sale en la televisión, trabaja en un local en Morón. No sale en la televisión.
Trabaja en un local.
Okay.
Vamos de nuevo al castellano.
C'est Mariano Ginas qu'on a entendu reprendre son chanteur qui chantait Mi chica, ma môme, dans cette extraordinaire flore qu'on attend impatiemment. Ça sort mercredi prochain, enfin en tout cas la première partie, puisqu'il y en aura 4 qui s'étalent sur 4 semaines. Et puis avant ou après avoir vu ce film, vous lirez le nouveau Sofilm, Fernando Gonzo, avec Laila Bekti en couverture. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son Pierre Faucillon. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, on se plongera dans les films de François Truffaut à l'occasion de la sortie du nouveau livre d'Anne Gillin consacré au cinéaste Tout Truffaut. Beau programme. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
La única tía que hay vive en Tucumán. Pero mi chica tiene 20 años y ni la Virgen de a ti. No es tan hermosa al sonreír ni tan dulce al mirar para mí. Ya no soy de aquí.